Europe 1, il est 8h18, la matinale, Mathieu Béliard.
Et votre invité, Sonia Mabrouk, c'est le professeur Éric Côme, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour à vous, professeur Éric Côme.
Bonjour.
La communauté scientifique, qui n'a pas toujours été d'accord, semble désormais craindre unanimement un rebond de l'épidémie. On doit vraiment craindre cette fameuse deuxième vague, professeur ?
En fait, tout dépend un peu de nous. Si on fait les choses correctement, je pense qu'on n'aura pas de deuxième vague. Mais si on ne fait pas les choses comme il faut, on aura une deuxième vague. C'est absolument inéluctable.
Nous, ce sont les citoyens, mais nous, c'est aussi les pouvoirs publics. Est-ce que tout est suffisamment fait pour conjurer justement ce risque ? Je parle par exemple de la stratégie de dépistage qui peut casser les chaînes de contamination.
Alors effectivement, vous avez raison de résumer les choses comme ça. Il y a nous, individus, les précautions, les gestes barrières, le masque, et puis il y a nous, collectivités. Effectivement, c'est ce qu'on résume par les trois verbes, tester, tracer, isoler. Et la question qu'on doit se poser, c'est exactement celle que vous posez, c'est-à-dire est-ce qu'on fait ça correctement aujourd'hui, tester, tracer, isoler ? J'en suis pas sûr.
C'est encore trop faible en France, insuffisant.
C'est trop faible, on ne teste pas assez, on n'attaque pas correctement les chaînes de transmission, il y a un problème au niveau du traçage des contacts, donc il y a un vrai problème au niveau des clusters, je crois qu'on n'en identifie pas assez.
Mais expliquez-nous, professeur Éric Côme, ce matin, on regarde du côté de nos voisins allemands, et on cite souvent l'exemple avec cette stratégie très efficiente de dépistage, et pourtant l'Allemagne reconfine aujourd'hui malgré cette stratégie.
Ça prouve bien que on peut avoir une deuxième vague si on prend pas bien les choses. Donc l'exemple de l'Allemagne, effectivement, c'est un très très bon exemple. Ils ont confiné de manière quand même très très localisée, et il vaut mieux confiner de manière très localisée que de confiner de manière très élargie, et ils l'ont fait avec juste raison. Ils ont identifié un énorme cluster et ils veulent casser les chaînes de transmission à partir de ce cluster.
Donc ces reconfinements ciblés, localisés, sont la procédure à suivre, et l'exemple allemand reste malgré tout le modèle.
Oui, enfin pour moi c'est plutôt l'exemple asiatique qui est un modèle, hein, notamment l'exemple de Taïwan ou de Singapour ou de la Corée du Sud. Mais si on se focalise sur l'Europe, effectivement, l'exemple allemand est l'exemple à suivre.
Plus largement, professeur Éric Côme, quand on vous lit, on lit vos récentes déclarations, vous ne dénoncez pas les rassemblements, ce que l'on voit aujourd'hui en France, notamment à Paris ou ailleurs, à la fête de la musique. Vous semblez avoir un regard indulgent, alors que certains s'offusquent de voir de plus en plus de personnes ne pas porter le masque et ne pas respecter les gestes barrières.
Oui, effectivement, vous avez raison de souligner ce paradoxe apparent. J'ai pas eu envie de stigmatiser les jeunes, je dois avouer franchement. Alors peut-être que c'est de la faiblesse de ma part, mais je peux pas m'empêcher de faire le parallèle, si vous voulez, entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Et je trouve qu'il n'y a aucune raison d'être hyper sévère sur ce qui se passe à l'extérieur et d'être complètement laxiste sur ce qui se passe à l'intérieur. Or, je trouve que pour les comportements à l'intérieur, dans les lieux clos, on a une tendance au laisser-aller qui est absolument certain. Dans les transports, tout le monde ne met plus le masque. Dans les magasins, de moins en moins de personnes mettent le masque. Et donc, ça m'inquiète beaucoup plus que des jeunes qui font la fête dehors. D'autant plus qu'après 3 mois de confinement, on peut comprendre qu'ils en avaient besoin et envie.
Mais si je vous entends bien, professeur Côme, de tels rassemblements extérieurs sont moins vecteurs de contamination, de propagation de l'épidémie. Selon vous, est-ce que c'est prouvé scientifiquement ?
Alors, justement, autant on sait que ça se transmet très bien à l'intérieur, autant à l'extérieur, on ne sait pas. Donc, je prends un peu argument de ça, si vous voulez, pour dire, faisons la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Après, il ne faut pas oublier que quand on voit les jeunes à l'extérieur, on peut être rassuré, mais il ne faut pas oublier que malheureusement, ils se retrouvent dans les bars aussi à l'intérieur à un moment, et c'est dans les bars que ça va se passer à l'intérieur. Ce sont tous les lieux clos qui posent problème. Les lieux ouverts n'en posent probablement pas tant que ça. Donc, je pense qu'il faut être très rigoureux, très strict dans les lieux clos, mais qu'à l'extérieur, on pourrait être, un peu plus relâché.
Il y a aussi le comportement, professeur Côme, de personnalités qui ont valeur d'exemple, forcément pour les plus jeunes, notamment dans le sport. Et quand on voit le comportement du joueur star Djokovic, positif au Covid, et qui a fait fi de toutes les précautions, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ce sont des modèles, forcément, pour toute une génération.
Ben, ce sont peut-être des modèles, mais ce ne sont pas des modèles qui donnent le bon exemple. Or, pour moi, un modèle, c'est quelqu'un qui doit donner le bon exemple. Non, je suis désolé, ce ne sont pas des modèles. Ils n'ont pas respecté les règles. Je crois qu'il y a des chaînes de transmission qui ont démarré, d'ailleurs, à propos de cette réunion tennistique, si on peut dire comme ça. Et ça prouve bien que, voilà, si on ne respecte pas les précautions barrières, on engendre des chaînes de contamination. C'est un très bon exemple, finalement.
Oui, c'est un très bon contre-exemple,
exactement.
Professeur, est-ce que vous suivez, est-ce que vous avez pris le temps et est-ce que vous avez le temps surtout de suivre quelques-unes des auditions par la commission d'enquête sur la gestion sanitaire dans notre pays ?
Écoutez, non, malheureusement, j'ai pas le temps. Je dois vous avouer qu'il y en a qui ne m'auraient pas beaucoup intéressé.
Je peux vous demander lesquelles ?
Par exemple, comme celle de William Dabb hier, m'aurait beaucoup intéressé parce que je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment des choses importantes à dire et qui aurait été un leader incontestable pour gérer cette épidémie.
Je peux peut-être vous faire un résumé, en tout cas, de ce qu'a dit Jérôme Salomon. Je ne sais pas si son audition vous a intéressé
ou
vous aurait intéressé,
Salomon,
j'ai compris. Ouais. Directeur général de la Santé, qui devant les membres de cette commission défend son bilan, affirme que chaque pays a été surpris, au fond, et que c'est ainsi. Est-ce que ça suffit comme défense aujourd'hui ?
Non, mais je suis très gêné par ce genre de choses, parce que c'est faux. On ne va pas tourner autour du pot. Bien évidemment, il y avait des pays qui étaient informés, qui ont fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai cité tout à l'heure Taïwan, Singapour, la Corée du Sud. Enfin, ce ne sont pas les exemples qui manquent. L'Allemagne, je ne vais pas me lancer dans ces polémiques-là. C'est une perte de temps.
Donc quand il dit cela, c'est faux, devant la commission d'enquête ?
Oui, c'est faux, mais je crois qu'il n'y a pas que ça qu'il a dit qui n'était pas tout à fait vrai, disons.
Vous pouvez me dire ce qui n'est pas vrai dans sa bouche ?
Je crois qu'au niveau... Mais je n'ai pas envie de revenir là-dessus, mais...
Mais sans aspect polémique, la question, professeur Combe, très sérieusement ce matin, c'est de retenir les leçons, justement, c'est de conjurer ce deuxième
Je suis d'accord avec vous. C'est exactement ça. Il faut retenir les leçons de nos échecs pour pouvoir aborder cette deuxième vague. Et je ne crois pas que c'est en forcément écoutant les responsables, disons, que l'on va avancer. Or là, je suis un peu inquiet parce que je trouve qu'on n'a pas pris correctement les enseignements de cette première vague épidémique. Et quand je vois par exemple que j'ai des collègues qui m'appellent dans des hôpitaux pour me demander comment gérer des clusters dans leurs hôpitaux et qu'apparemment ça ne se fait pas bien, je pense qu'il y a un vrai problème. Je me demande même si on a vraiment compris le message.
C'est grave ce genre d'appel là, ce que vous nous dites ce matin.
Mais
c'est la réalité de la situation.
Je dois avouer que la première fois qu'on m'a appelé la semaine dernière, je me suis dit que oui, ça arrive, des erreurs ou des manques. Mais là, on m'a réappelé encore deux fois cette semaine, depuis le début de la semaine, alors qu'on est que mercredi. Et donc, je vois bien que c'est pas... Même nous, dans l'hôpital, on n'arrive pas à bien gérer nos cas. Alors vous imaginez à l'extérieur.
Vous ne serez pas surpris, je ne sais pas si vous allez la regarder cet après-midi, l'audition du professeur Raoult qui annonce déjà la couleur, non ?
Non,
affirmant qu'il y a deux fois plus de morts parce qu'on n'a pas soigné les gens. Mais au-delà de la personnalité, au-delà du constat, si vous aviez une question à lui poser, le professeur Raoult, ça se fait entre collègues, entre professeurs, qu'est-ce que vous lui demanderiez ?
Moi, je ne lui demanderai rien parce que je ne pense pas qu'on joue dans la même cour. Lui, il appartient à l'élite, c'est une star. Et moi, je ne suis ni une élite, ni une star.
Il y a beaucoup d'ironie dans ce que vous dites là.
Oui, mais c'est quelque part une réalité. Je pense qu'on vit dans deux mondes qui sont
complètement différents. Vous êtes deux grands professeurs, vous êtes deux grands scientifiques reconnus.
Peut-être. Je n'en suis pas complètement sûr, en ce qui me concerne en tout cas.
En tous les cas, professeur, et ça rejoint tout à l'heure la manière dont je vous ai annoncé, c'est que vous dites quand vous savez et vous dites quand vous ne savez pas. Et ça rejoint d'ailleurs la leçon que vous promulguez à vos étudiants. Et ça vient de Confucius, c'est bien ça ?
Alors effectivement, Confucius a une très belle formule qui, je pense, est très importante et qui s'appliquerait d'ailleurs à Didier Raoult sans aucun problème. La formule, c'est savoir ce que l'on sait, savoir qu'on le sait, savoir ce que l'on ne sait pas, savoir qu'on ne le sait pas, c'est savoir véritablement.
Je vous propose de laisser nos auditeurs méditer, et nous-mêmes également.
Oui, c'est une très belle formule.
Merci professeur Combe, c'est un plaisir. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1 et bonne journée à vous.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h27, vous êtes sur Europe 1.